Kiosque Magazine.
Jeudi 7 mai, un jeudi absolument magnifique d'ailleurs, mais il faut quand même gagner des sous, s'occuper de ce qu'on doit faire pour travailler et finalement vivre. C'est l'économie, c'est l'emploi, c'est le sujet du Kiosque Magazine du jeudi, au cours duquel, dans la prochaine heure, nous, et par nous, j'entends Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, allons vous parler des sujets qui ont fait l'actualité. Alors Éric, qu'avez-vous prévu?
Eh bien, il faut aussi se loger, cher François. Eh bien, alors, à propos de logement, qu'en est-il de cette bulle immobilière qui ne gonfle toujours pas? L'analyse économique devrait, semble-t-il, trouver un champ d'application plutôt favorable à son exercice à travers l'évolution du marché immobilier, en théorie du moins. Après tout, c'est du comptage, c'est de la statistique assez simple. Eh bien, en faire une extrapolation qui puisse devenir prédictive, ça semble impossible. Les économistes qui parlent d'immobilier passent leur temps à se contredire entre eux, et pire, à se contredire eux-mêmes, ce qui, après tout, est la marque d'un authentique économiste. Mais qu'en est-il de la fameuse bulle immobilière chez nous? On verra ça. Ensuite, le prêt usuraire déguisé. Que penser d'un vide juridique qui autorise n'importe quelle dérive en matière de publicité mensongère et de taux de crédit astronomique? Que chacun est libre de faire ce qui lui plaît ou que le rôle du politique, notamment au moyen de la loi, est de donner aux plus démunis ou aux plus exposés une protection qu'ils ne parviennent pas à se donner eux-mêmes? Eh bien, cette question trouve une belle application dans le cas des petits prêts faciles à obtenir. On va voir qu'ils causent de gros dégâts. Et pour finir, en ce qui me concerne, la croissance. Alors le débat sur la croissance n'en finit pas. Et à nouveau, on découvre chaque jour des points de vue souvent contradictoires et bien peu utiles pour s'éclaircir les idées de la part des économistes. Depuis le fait que la croissance et emploi ne sont pas aussi liés qu'on pourrait le croire, jusqu'au schéma de ralentissement de la dite croissance en passant par le changement des indicateurs. Est-ce que produit intérieur brut et bien-être sont si étroitement imbriqués l'un dans l'autre? Que faut-il en penser?
Et pour ma part, je vous parle des Québécois les plus pauvres en rapport avec les plus riches, et non pas pour départager leurs revenus, mais bien leur patrimoine respectif. On va voir que ça y est, oui, c'est confirmé, les riches s'enrichissent, et les pauvres, ben, ils s'appauvrissent pas, mais ils s'enrichissent moins vite que les autres, enfin. On parle également de faillite et d'insolvabilité, puisque Stéphanie Gramont, qui a également signé le texte que vous allez lire sur le prêt usuraire, s'est intéressé à ces fausses entreprises qui sont censées vous aider à corriger votre situation financière et qui, à toute fin pratique, vous arnaquent. Et finalement, je me suis fait plaisir avec un blog tiré de l'actualité où on nous démontre que le Québec vit au-dessus de ses moyens et surtout nous dit pourquoi. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Alors, fidèle à mes habitudes, maintenant que je vous ai dit de quoi nous allions parler, je vais vous parler d'autre chose, puisque nous sommes jeudi matin. Et je le regrette un peu, parce que si cette émission était enregistrée un vendredi, j'aurais pu vous parler de l'Assemblée de Bombardier, Assemblée générale de Bombardier, qui a lieu ce matin, en fait, et qui est finalement très importante pour le fleuron industriel québécois. Je vous explique pourquoi. D'abord, c'est la première assemblée de la nouvelle direction. Je vous rappelle que c'est la toute première fois qu'un Bombardier est dirigé ni par un Baudouin, ni par un membre du clan Bombardier, finalement. Que par ailleurs, Bombardier va devoir faire des choix pour augmenter ses liquidités et qu'il y a des rumeurs de la vente de Bombardier Transport ou de l'association d'investisseurs étrangers associés à Bombardier Transport, notamment des investisseurs chinois potentiels, ou alors qu'on va faire du C-Series, un très gros, pardonnez-moi l'expression, un joint venture, c'est-à-dire une aventure commune, en appelant un investisseur à finalement mettre des sous et à partir avec un bon bout du morceau. Alors, il s'agit de voir quelles sont les options qui sont sur la table et qu'est-ce qui va être amené. C'est pour ça que je vous invite à suivre l'actualité dans les journaux de demain pour voir ce qui se sera dit. Bon, voilà, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais vous parler de toute autre chose. Les Québécois les plus pauvres. Le service de la statistique du Québec s'est intéressé donc à la progression des patrimoines. C'est intéressant comme approche puisque d'habitude, Statistique Québec s'intéresse aux revenus, par exemple, qui gagnent plus. C'est comme ça qu'on va mesurer la progression de la richesse. Mais s'intéresser au patrimoine, ça nous indique qui garde quoi. Et voici ce que ça donne. Les Québécois les plus pauvres regardent les autres s'enrichir, un texte d'Éric Desrosiers paru aujourd'hui même. Le patrimoine de la majorité des Québécois a augmenté deux fois plus vite depuis 15 ans que celui du reste de la population moins nantie. L'avoir net des ménages a presque doublé de 1999 à 2012 au Québec. Le total de leurs avoirs moins l'ensemble de leurs dettes étant passé d'une valeur nette médiane de 100 200 $ à 197 900 $ en dollars constants de 2012, rapporte l'Institut de la statistique du Québec dans une étude dévoilée mercredi. Ce résultat général cache toutefois une fracture au sein de la société qui apparaît lorsqu'on la divise en 5 groupes égaux, allant de ceux dont l'avoir net est le moins élevé, le premier quintile, à ceux dont l'avoir net est le plus élevé, le cinquième. Cette opération permet en effet de constater que la hausse du patrimoine n'a été que d'environ 40 % pour les deux quintiles ou les 40 % de la population les moins nantis, alors qu'il a été de plus du double, près de 100 % pour les trois autres quintiles ou 60 % de la population la plus riche. Comme ces hausses inégales se sont appliquées à des niveaux de richesse déjà bien inégaux, les écarts entre les différentes strates de la société se sont creusés. La valeur nette médiane des 20 % des ménages les plus riches a ainsi grimpé de 632 800 $ à presque 1,2 million, soit l'équivalent de 68 % de l'ensemble des avoirs nets du Québec. Tout juste en dessous, les familles du quatrième quintile ne détenaient déjà que 21 % du total québécois en 2012, avec un avoir net de 488 100 $. En milieu de peloton, le 20 % du troisième quintile a pour sa part vu son avoir net médian passer de 100 200 à 198 000, pour 8,2 % de l'ensemble du patrimoine québécois. Les familles du deuxième quintile ont dû se contenter d'un avoir net quatre fois inférieur à 42 400 et équivalent à seulement 2 % du total québécois. Quant au cinquième de la population la moins riche, son avoir net est tellement faible, après être passé de 1 300 à 1 800 $, que l'ISQ n'ose pas lui accorder le même degré de certitude statistique que les autres, ni essayer d'estimer sa part du patrimoine financier québécois. L'étude de l'Institut de la statistique n'a pas essayé d'expliquer la différence du rythme de croissance de l'avoir net des 40 % des moins nantis. On peut formuler l'hypothèse que la plus forte augmentation du prix des maisons y est pour quelque chose si l'on admet que les ménages les moins nantis seraient aussi proportionnellement plus nombreux à être locataires plutôt que propriétaires. C'est prudemment avancé son auteur, Marc-André Gauthier, en entretien téléphonique au Devoir. Est-ce que ces grandes tendances constatées dans l'étude peuvent avoir changé depuis 2012? Je ne crois pas, répond l'analyste. Les écarts entre riches et pauvres sont habituellement abordés en termes de revenus plutôt que de la valeur de leur patrimoine. Une autre note de recherche de l'Institut de la statistique du Québec rapportait récemment que les deux phénomènes sont étroitement liés, bien que l'on trouve des minorités non négligeables de ménages à revenus élevés mais avec peu de patrimoine, ainsi que des ménages à revenus plus faibles mais pourvus d'un bon patrimoine. À preuve, l'étude de mercredi constate que les ménages disposant de moins de 25 000 $ de revenus après impôts avaient une valeur nette médiane d'à peine 10 000 $ en 2012, comparativement à un patrimoine d'un peu plus de 170 000 $ pour les familles gagnant entre 25 000 et 50 000 par an, à un patrimoine d'un peu moins de 400 000 pour les revenus de 75 et 100 000 $ par an, et plus de 1,3 million en valeur nette pour les ménages dont le revenu annuel après impôt dépasse les 125 000 $. La répartition entre actifs et passifs n'a pas tellement changé de 1999 à 2012, remarque l'Institut de la statistique. Plus du tiers de l'ensemble des avoirs du Québec prend la forme de REER, de régimes de retraite d'employeurs et d'autres régimes de retraite privés. La résidence principale arrive tout de suite en deuxième avec 29 % du total, suivi beaucoup plus loin par les placements financiers hors retraite et les capitaux propres dans une entreprise. Du côté des dettes, les trois quarts du Québec restent liés à la maison à raison de 56 % en hypothèque sur la résidence principale et de 19 % en hypothèque pour d'autres biens immobiliers. Les dettes à la consommation comptent pour les 25 % restants. Parmi ces dernières, le recours aux marges de crédit a fait un bond, passant de 4 % à presque 11 % de l'ensemble des dettes québécoises, oui, alors que les prêts automobiles sont passés de 7,4 à 8,7 %. Bon, c'est beaucoup de chiffres, je le reconnais, mais ce que ça nous montre ici, c'est que les gens qui gagnent plus d'une manière générale ont effectivement plus de facilité à ramasser de l'argent. Ça tombe sous le sens. Et ce sur quoi ça me fait m'interroger, moi, c'est est-il vraiment nécessaire de permettre, par exemple, comme le fait le gouvernement fédéral, de mettre plus d'argent dans ses soliers à l'abri de l'impôt? C'est la question que je pose. Allez, je vous fais une confidence. On en discute très souvent hors d'onde ici. Est-ce que le prix des maisons s'envole ou est-ce qu'il s'effondre? Est-ce que l'immobilier est déprimé ou est-ce qu'il remonte? Parce que voyez-vous, dans une semaine, on trouve un texte qui dit tout et son contraire. Mais là, ça y est. Il semblerait que Gérard Bérubé nous fait enfin un point clair.
Oui, alors elle fait peur, on la prédit, on l'attend et on la voit toujours pas venir. Qu'en est-il de cette bulle immobilière qu'on nous annonce comme un des signes de l'apocalypse? Peut-être est-ce comme l'apocalypse une simple légende bonne à effrayer les esprits simples. Voyons voir effectivement ce qu'en dit Gérard Bérubé. Son dégonflement a été maintes fois annoncé. Mais encore faut-il qu'il y ait gonflement. La bulle immobilière au Canada reste encore au rang du mythe ou de la légende urbaine. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, a été invité cette semaine à clarifier ses propos, notamment sa vision de l'état du marché immobilier au Canada. Reprenant des estimations déjà évoquées par d'autres institutions, la Banque centrale retient que le marché immobilier canadien serait surévalué de 10 à 30%. En janvier, le Fonds monétaire international réitérait son inquiétude devant la cherté du marché immobilier canadien. L'institution de Washington retenait que l'endettement des ménages avait atteint des sommets sans précédent au cours de la dernière décennie, dépassant 150% du revenu disponible, soit le taux le plus élevé parmi les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. Et elle faisait le parallèle avec la hausse des cours immobiliers de plus de 60% pour l'ensemble du marché canadien depuis 2000. Les hausses ont été particulièrement sensibles dans les grandes métropoles, dont Toronto, Calgary et Vancouver, cette dernière se classant au deuxième rang mondial des villes les plus chères après Hong Kong, soulignait-il. C'est vrai que si vous faites un tour sur MLS et que vous regardez ce que coûte un 3,5 à Vancouver, eh ben, pour le même prix, vous avez un immeuble de 40 étages à Montréal. Auparavant, la firme de recherche en investissement Morningstar dénonçait une surévaluation accrue alors que l'agence Fitch se joignait également au clan des pessimistes. Pour Morningstar, le déséquilibre pourrait désormais atteindre les 30%, alors que Fitch chiffrait la bulle à 20%. Déjà un écart de 10% entre deux soi-disant grands pourvoyeurs de formation économique, c'est un peu surprenant. Passons. Dans son rapport de juin 2014, le FMI observait alors que le marché immobilier canadien était, avec celui de la Belgique, le moins abordable des pays de l'OCDE. Le FMI chiffrait alors le déséquilibre des prix au Canada à 10%, alors que l'OCDE avait avancé précédemment la barre des 30%. M. Poloz a nuancé tout cela cette semaine. « Nous ne croyons pas avoir affaire à une bulle », a-t-il déclaré, ajoutant qu'on n'assiste pas à un emballement des prix, que la hausse des prix immobiliers n'est pas le fruit de la spéculation et que la construction de nouveaux logements suit généralement l'accroissement de la population. Il ajoutait « Le fait que le marché soit aujourd'hui surévalué n'a rien d'anormal, compte tenu des taux d'intérêt exceptionnellement bas depuis tellement longtemps. C'est le contraire qui aurait été étonnant. » On pouvait lire dans un texte du Devoir que cette surévaluation ne signifie pas que le prix des maisons devra fatalement être revu à la baisse, plus ou moins brutalement. Le scénario retenu d'atterrissage en douceur verrait plutôt les revenus des ménages continuer de croître avec l'économie et remonter graduellement à des niveaux plus sains par rapport au prix de leur résidence, avançait le gouverneur de la Banque centrale. Jeudi, la Société canadienne d'hypothèques et de logements publiait une mise à jour des résultats de son cadre d'analyse et d'évaluation des prix des logements conçu pour déceler la présence de conditions problématiques sur les marchés canadiens de l'habitation. On pouvait y lire que la modeste surévaluation fondée sur les indicateurs nationaux reflète une variété de conditions relatives au prix à l'échelle du pays, certains centres montrant davantage de signes de surévaluation que d'autres. Dans les régions métropolitaines de recensement de Toronto, Montréal et Québec, certains risques continuent d'être plus élevés qu'à l'échelle nationale, mais ils demeurent tout de même modérés. La SCHL faisant ressortir le risque de construction excessive à Toronto et à Montréal. Ça, c'est vrai, on se promène dans les rues de Montréal, on voit le nombre de condos, c'est impressionnant. Dans ces deux RMR, où il y a probablement 20 vendeurs pour un acheteur, hein, rappelez-vous bien ça, donc ça veut dire qu'on est sur un marché d'acheteurs, il faut en profiter. Le nombre de copropriétés en construction se rapproche de sommets historiques. L'organisme voyait un risque de conditions problématiques élevé dans les RMR de Regina et de Winnipeg sous le coup d'une accélération des prix, d'une surévaluation, d'une construction excessive, surtout dans le segment des appartements en copropriété. Le risque est jugé faible dans les RMR de Calgary et d'Edmonton, pourtant aux prises avec la chute des cours pétroliers, et dans celle de Vancouver, marché en surchauffe par excellence. Malgré la croissance rapide des prix des propriétés à Vancouver, la demande demeure forte en raison de la hausse de la population et du revenu disponible dans la région. C'est toujours l'un de ces marchés où les prix sont plus élevés que la moyenne, mais les prix élevés n'indiquent pas nécessairement une surévaluation, a soutenu l'analyste de la SCHL. En cette semaine encore, l'indice d'abordabilité Desjardins mettait en exergue un repli modeste de l'accès à la propriété au Canada, une amélioration au Québec. Alors, voyez-vous, on n'est pas tellement plus avancé, on en revient au point de départ. Mm-hmm. Très difficile de se faire une opinion.
Mais on sent que du côté du gouvernement fédéral, on craint effectivement que les taux d'intérêt finissent par le lier. C'est-à-dire que s'il y a trop de gens qui achètent leur maison maintenant, on ne pourra pas remonter les taux d'intérêt facilement sans provoquer une crise, éventuellement un effondrement du marché immobilier. Et je termine en vous donnant une citation que j'ai toujours rêvé de placer en onde. Bull, envole-toi!
See the sleep that rests upon the quiet street we're standing on. Is it time to go away and try again some other day? 'Cause these are words we use to say goodbye. Strong on my back and she is gone somewhere else. I do not know, time will tell and I will go. These are words we use to say goodbye. These are
qui chantait « Say Goodbye ». Une bonne amie de cette émission, Stéphanie Gramont, a signé deux des textes que nous vous lirons cette semaine. Celui que moi, je vais vous lire, vous nous parle des syndics de faillite, et plus particulièrement de cette pratique qui consiste à vouloir vous éviter de faire faillite, alors que c'est souvent la seule solution que vous avez. Un texte intitulé « Dans les plates-bandes des syndics », ça a été publié le 4 mai. Je vous en lis des parties parce qu'il s'agit d'un texte quand même assez long. Aller voir un syndic de faillite, l'idée rebute plusieurs consommateurs surendettés. Attirés par la publicité, ils préfèrent aller voir d'autres intermédiaires qui les guident, parfois sans trop leur dire, vers une proposition de consommateur. Cette solution de rechange à la faillite qui gagne en popularité permet de conserver la maison, l'auto et l'honneur. Elle consiste à offrir aux créanciers le remboursement d'une portion des dettes sans intérêt sur une durée maximale de 5 ans. Le hic, c'est que les syndics sont les seuls à pouvoir faire une proposition de consommateur, une procédure réglementée par le fédéral. Alors, à quoi bon payer un intermédiaire quand le syndic qui fera la proposition de consommateur sera obligé de refaire le travail et de vous facturer les honoraires prévus par la loi? À quoi bon consulter un intermédiaire pour reprendre le contrôle de son budget quand les associations coopératives d'économie familiale, les ACEF, peuvent épauler gratuitement le consommateur surendetté? Les personnes endettées jusqu'au cou n'ont certainement pas le luxe de payer en double, surtout que les services des intermédiaires coûtent très cher et les clients doivent payer à l'avance. Dans un contrat que j'ai obtenu, le Petit Cochon Rose, groupe Solution 2, exige, par exemple, des honoraires de 2127 $ avant même le début du mandat à un client qui n'a pas les moyens de payer sur le champ. Qu'à cela ne tienne, les honoraires seront financés sur 36 mois à un taux de 15 %, ce qui gonfle la facture à 3084 $. Drôle de façon d'aider les gens à se sortir de leurs dettes. Mais le responsable de groupe Solution 2, Yvon Poirier, estime que ces frais sont justifiés puisque son programme en 6 étapes permet aux clients d'économiser beaucoup d'argent et de reprendre de saines habitudes financières. Ce programme prévoit notamment la sélection d'un syndic de faillite qui adhère à la philosophie du groupe. Toutes nos propositions sont proposées à 30 cents dans la piastre. Certains syndics sont d'accord avec ça, d'autres non, m'a expliqué M. Poirier. Le programme inclut aussi l'analyse de la situation financière et de la documentation financière du client, la participation à la prise de conscience du client, la conception d'un budget équilibré, ainsi que la formation sur la philosophie budgétaire et l'autonomie financière. Or, les syndics de faillite ont l'obligation de fournir tous ces services, ai-je constaté, en scrutant les directives diffusées par le bureau du surintendant des faillites. Le plus troublant, c'est que certains de ces intermédiaires demanderaient au syndic une commission pour l'envoi du client. Je pense qu'il n'y a aucun syndic de la province de Québec qui n'a jamais été approché, m'a assuré le syndic Martin Poirier du cabinet Lemieux-Nollet. Le syndic paie une cote de 300 à 500 $ selon ce que j'ai pu entendre, ce qui est totalement illégal. Oui, j'ai été approché il y a un an et demi. Je pense que tous les syndics l'ont été, m'a confirmé un autre syndic sous le couvert de l'anonymat. L'intermédiaire était prêt à lui transmettre une 10aine de dossiers par mois, moyennant une commission de 400 $ par dossier. Il voulait préparer les dossiers et les apporter en vrac chez le syndic, qui n'aurait eu qu'à conclure le travail. Bref, signer puis rubber stamper, si vous me passez l'expression. « Un soir par semaine, je vais arriver avec ma gang et tu vas faire ça vite, vite, vite », a-t-il dit au syndic qui a refusé l'offre. Ce genre de pratique est formellement interdit. Les syndics n'ont pas l'autorisation de payer pour qu'on leur envoie des clients, insiste le bureau du surintendant des faillites. Cela va à l'encontre de leur code de déontologie qui stipule que les syndics ne peuvent verser un paiement à un tiers ni lui fournir tout autre avantage pour les renvois. Ils ne peuvent pas non plus accepter une commission, une rémunération ou tout autre avantage pour les renvois. Le surintendant pourrait prendre des mesures disciplinaires si des renseignements lui permettaient de pincer un syndic qui verse une commission, même s'il n'est jamais intervenu jusqu'ici dans ce domaine. Par ailleurs, le surintendant des faillites n'a aucun pouvoir réglementaire en ce qui a trait aux conseillers en crédit. Plusieurs provinces comme l'Alberta, le Manitoba et l'Ontario ont adopté des lois depuis quelques années afin de resserrer les règles s'appliquant à ces conseillers, mais pas le Québec. Qu'attendons-nous pour agir? Aller voir un syndic, ça ne fait pas mal. Faillite, le mot fait peur. C'est pourquoi bien des consommateurs se braquent à l'idée de consulter un syndic, un peu comme d'autres ont une peur bleue d'aller chez le dentiste. Mais iriez-vous voir un charlatan pour vous faire arracher une dent? Certainement pas. Alors, si vous êtes essoufflé par vos dettes, ne vous posez pas de questions. Allez voir un syndic. Ce sont eux les véritables spécialistes de l'insolvabilité. En allant voir le syndic, les consommateurs s'assurent de faire affaire avec un professionnel qui est régi par la loi, qui doit suivre un code d'éthique, qui leur permet de voir des solutions et d'être en mesure de prendre une décision éclairée pour ensuite être soulagé, dit Charles Tremblay, président du Conseil des syndics de faillite du Québec. Le syndic peut vous guider vers une faillite ou une proposition de consommateur. Aucun autre spécialiste n'a le droit de faire ce genre de procédure encadrée par la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Mais le syndic peut aussi vous offrir d'autres solutions. Refaire votre budget, consolider vos dettes financées, refinancer votre hypothèque. Plus vous consultez rapidement, plus vous aurez d'options. C'est un peu comme un cancer. Il est plus facile à traiter quand on l'attrape au début. Et j'ajoute en terminant que le syndic de faillite Ça n'est pas votre syndic à vous, c'est le syndic de Lafayette. Il représente autant les intérêts de l'ensemble des créanciers, ce qu'on appelle la masse, que votre intérêt à vous. Alors, il est lié par l'ordre public et il doit faire quelque chose qui est dans l'avantage de tout le monde. Et l'avantage premier, c'est de vous permettre de prendre un nouveau départ le mieux possible. Voilà.
Quelques petites brèves au milieu de cette émission. D'abord, une mauvaise nouvelle, je trouve. Le gouvernement fédéral a refusé les demandes d'assouplissement pour favoriser l'embauche de travailleurs étrangers temporaires au Québec. Écoutez-moi, c'est une nouvelle qui me va droit au cœur et pour laquelle je ne militerai pas. Donc, je trouve que c'est regrettable. J'en parlais d'ailleurs hier avec un chef d'entreprise québécois qui se plaignait d'avoir recruté des professionnels dont il avait besoin venus de France et qui ont vu leur permis refusé par Ottawa. Et ils ne trouvent pas les gens qui pourraient l'aider.
Sur le marché local. Ouais. Et c'est aussi dramatique pour tout ce qui est le monde agricole actuellement. Ramasser les légumes, c'est largement le fait des travailleurs étrangers chez nous. Enfin, ceci dit, les Québécois, eux, peuvent travailler à l'étranger puisqu'il semblerait que le Club Med nous cherche. Alors, si vous avez un étudiant à la maison ou quelqu'un qui se pose des questions sur le sens de la vie, qui aurait besoin de décrocher, eh bien, ce sont des contrats de 6 mois. Et le Club Med cherche particulièrement des gens formés, évidemment, en cuisine, en hôtellerie, en réception. Ils ont d'ailleurs des ententes avec plein d'institutions spécialisées dans le domaine au Québec. Le Québécois est recherché parce que, semble-t-il, il est d'abord bilingue. Et par bilingue, j'entends avec un anglais compréhensible pour un Américain, ce qui n'est pas toujours le cas des Français. Malheureusement. Et il est recevant, jovial et détendu. Voilà. Bref, il s'insère très bien dans les clubs Med et la philosophie du haut les mains.
Vous savez qu'on a annoncé il y a peu de temps la hausse du salaire minimum. Le ministre du Travail du Québec, Sam Ahmad, lui, estimait que cette hausse encourageait les gens à sortir de la pauvreté en allant sur le marché du travail. Mais le hic, c'est que les plus mal nantis de la province sont déjà à plus de 60% sur le marché du travail. Alors n'en déplaise au ministre, ce n'est pas avec 20 cents l'heure de plus que les centaines de milliers de travailleurs au salaire minimum du Québec pourront sortir de la pauvreté. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la plupart des organisations de défense des travailleurs à faible revenu.
Et on pensait que le C-Series était le seul avion qui avait vraiment des problèmes. Eh bien, sachez que le 787 Dreamliner de Boeing a été gardé au sol. En fait, il devra être ramené au sol régulièrement puisqu'on a découvert que s'il restait sous tension pendant plus de 248 jours consécutifs, eh bien, les accumulateurs pouvaient lâcher en vol, ce qui provoquerait une panne électrique générale et évidemment l'écrasement de l'avion. Bon, ceci dit, c'est un scénario catastrophe et c'est pas confirmé. Déjà la fin de la première demi-heure de cette émission. On fait une pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosk Magazine.
Deuxième demi-heure de cette émission, et cette fois-ci, on va vous parler du Québec qui vit au-dessus de ses moyens, de la croissance et du mythe que ça constitue. Mais d'abord et avant tout, on revient avec Stéphanie Gramont qui, cette fois-ci, s'intéresse au taux d'intérêt complètement délirant qu'on exige des gens qui sont déjà endettés.
Oui, la publicité, c'est bien connu, a pour objet de rendre désirables des objets dont, pour la plupart, nous n'avons aucun besoin. Alors, elle embellit les choses pour mieux les vendre. Est-ce que c'est bien honnête? Quand il s'agit de prêts usuraires, la ligne rouge semble bel et bien franchie. Alors, effectivement, c'est ce qui a intéressé Stéphanie Gramont. Vous aviez raison de dire tout à l'heure, François, que c'est une plume qu'on apprécie beaucoup ici et qu'on cite souvent, et je pense qu'on a raison de le faire. Alors, elle appelle son article du prêt usuraire déguisé. C'est déjà tout un programme. Assez du froid, obtenez facilement un prêt pour vos prochaines vacances au soleil, claironne l'un. Un prêt rapide de $700 remboursé en 4 mois sans enquête de crédit, assure l'autre. Sur leur site web, un papa qui se roule gaiement dans l'herbe avec son tout petit, des jeunes qui prennent un verre au bord de la mer, ça respire le bonheur. Mais ces images idylliques cachent une toute autre réalité, celle des consommateurs en détresse financière. Les prêteurs à court terme leur offrent des prêts de 500 à 750 dollars qu'ils devront rembourser sur 3 ou 4 mois. Leur dossier de crédit est pourri? Pas grave. L'important, c'est qu'ils aient un emploi stable et un salaire versé dans leur compte bancaire par dépôt direct. Il suffit de remplir un formulaire et hop, le tour est joué. L'argent atterrit dans leur compte en 24 heures. C'est par la suite que ça se corse. Les gens qui cognent à ces portes-là sont souvent au désespoir. Incapables de rembourser, ils renouvellent leurs prêts. Leur dette s'amoncelle et ils se retrouvent en faillite, m'ont raconté plusieurs syndics de faillite qui les reçoivent plus tard dans leur bureau. Je ne sais pas si c'est les mêmes que ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, mais bon. Difficile. On espère qu'il y a des syndics qui aident un peu quand même les gens qui ont des difficultés. Difficile de s'en sortir quand le prêt coûte l'équivalent de, tenez-vous bien, 300% par année. Évidemment, ce taux n'est jamais présenté nulle part. Les courtiers vous diront que leur taux d'intérêt se situe entre 30 et 32%, ce qui est déjà très élevé. Vous me rappeliez tout à l'heure que le taux de l'usure, le taux légal au-delà duquel on n'a pas le droit d'opérer, est de 60%,
non,
c'est ça?
Non, en fait, c'est pire que ça. À 60%, vous commettez un crime au sens du code criminel, le crime d'usure, justement.
D'accord.
C'est donc un acte criminel de facturer plus de 60%, mais ça se déguise. Après, ça se déguise un taux d'intérêt, et c'est ce que vos intervenants font, justement.
D'accord. Mais quand on, alors oui, on arrive dans le cœur du problème, mais quand on additionne les frais de courtage de 250 à 300 dollars, le taux de crédit explose à 300%, a calculé Jean-Louis Renaud, avocat à l'Office de la protection du consommateur, qui a analysé à ma demande 4 offres que différents prêteurs m'ont faites au téléphone. C'est bien au-delà du taux usuraire de 60%. Alors pourquoi ces prêteurs ont-ils pignon sur rue? Pourquoi est-ce que personne ne les freine? Cela fait pourtant des années que ces pratiques sont dénoncées dans les médias. Le hic, c'est que l'OPC reçoit peu de plaintes. Ces prêteurs s'adressent surtout à des gens peu scolarisés et défavorisés qui n'ont pas tendance à se plaindre d'avoir à payer des frais de crédit astronomiques. Pour eux, c'est comme une fatalité. L'OPC a donc de la difficulté à documenter le phénomène, sans compter que la migration de ces prêteurs sur le web complique les enquêtes, explique le porte-parole de l'OPC, Charles Tanguay. Avec le numérique, ces entreprises-là peuvent être partout pour pas très cher, dans des lieux intangibles, dit-il. Elles s'annoncent, mais bien souvent on ne sait pas qui est derrière l'entreprise. Elles peuvent se défiler facilement. Ça facilite leur tâche, mais pour nous, ça complexifie la surveillance. Toutefois, quelques prêteurs sont actuellement dans la mire de l'OPC, notamment crédit700.ca, donc retenez bien ce nom pour surtout pas y aller, crédit700.ca, qui fait l'objet de 3 plaintes. Les prêteurs à court terme se défendent d'imposer des taux de 300%, prétextant que le courtier et le prêteur sont deux entités différentes. Différentes vraiment? Au téléphone, le préposé de prêteargentrapide.ca, merveilleux ce nom, répond que le prêteur est multicrédit. Or, il s'agit d'une seule et même entreprise d'après le registre des entreprises du Québec. Autre exemple, argentrapide.com, moneyprovider.com et argent700 font partie de la même entité et des contrats sont remis aux clients. Ces entreprises appartiennent à Gestion financière Jocelyn Paquette. En 2007, celui-ci a dû verser une amende de 2476 dollars, ce qui ne me paraît pas énorme d'ailleurs, après avoir été reconnu coupable d'avoir agi sans être titulaire d'un permis de prêteur d'argent, alors qu'il utilisait l'enseigne de Crédit Interfax à Granby. Crédit700.ca et argentrapide.com font régulièrement affaire avec le prêteur gestion ODC. Au téléphone, une préposée d'argentrapide.com m'a expliqué « C'est gestion ODC la plupart du temps qui fait les prêts. Nous, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux. » En téléphonant chez Crédit700 à Granby, on vous transférera directement à la boîte vocale de l'actionnaire de gestion ODC dont l'adresse est pourtant à Québec. Mais cette adresse correspond à celle de Regus, une entreprise qui permet d'avoir un bureau virtuel où un préposé traite les appels et le courrier. Curieusement, l'adresse de facturation des frais de courtage de Crédit700 correspond aussi à un bureau de Regus à Vancouver, celui-là. Mais qu'il s'agisse d'une seule ou de deux entreprises distinctes, le résultat est le même pour le consommateur. Il emprunte 700 dollars et doit rembourser 1064 dollars en 4 mois, ce qui équivaut à un taux de crédit annuel de 300%. On est loin des 30% présentés. Pourtant, l'article 70 de la loi sur la protection du consommateur stipule que les frais d'administration et les frais de courtage doivent être inclus dans les frais de crédit. Apparemment, cela n'empêche pas les prêteurs de présenter les frais de courtage à part. Je ne sais pas si cette notion existe, mais c'est ce qu'on appelle le taux effectif global qui contient tout et qui est la dernière ligne qui vous permet de savoir.
En fait, c'est avoir un seul chiffre et vous avez ça sur tous les contrats qui sont des formulaires prévus par l'Office de protection du consommateur. Et tous les contrats vous disent, vous avez une ligne où on dit coût total du crédit et ça vous donne un taux réel.
Voilà. Pour régler le problème, Québec voudrait interdire carrément aux courtiers en prêt de percevoir un paiement directement du consommateur dans le cadre du projet de loi 24 déposé en 2011. Si la législation avait été adoptée, les frais versés au courtier auraient dû être payés par le prêteur, un peu comme dans le courtage hypothécaire où c'est la banque qui verse la commission au courtier et non pas le consommateur. Avec une telle mécanique, le prêteur serait forcé d'intégrer les frais de courtage dans les frais de crédit imposés aux clients. Les consommateurs verraient alors clairement qu'un taux de 300% est fou raide. J'adore cette expression, fou raide. Malheureusement, le projet de loi 24 est mort au feuilleton avec la dissolution de l'Assemblée nationale. La balle est désormais dans le camp politique. Espérons qu'elle rebondira bientôt. Il est grand temps de faire le ménage dans cette industrie malsaine. Je crois que le mot de la fin est bien celui qu'il fallait employer et c'est vraiment malsain. Donc faites très attention, ne vous lancez pas dans des opérations de prêt avec les entreprises qu'on a citées dans cet article.
Et assurément pas pour aller à Cuba, ça c'est clair. Allez, comme je le disais tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un texte paru dans un blog. On est donc un peu plus loin de l'imprimé, mais bon, c'est le blog de l'actualité qui est quand même un magazine, alors ça nous rapproche de notre talle usuel. Le blog de Mathieu Charlebois. Le Québec vit au-dessus de ses moyens. Les compressions, l'austérité et tout le tralala sont là pour ramener les wagons de notre train de vie dans la gare de la réalité. Le Québec vit au-dessus de ses moyens. Comme une caissière à temps partiel du Dolorama qui roule en Cadillac, comme un musicien de jazz qui s'imagine qu'il peut faire l'épicerie chaque semaine, comme Éric Duhaime qui essaie de dire quelque chose de sensé mais qui finit par comparer l'État islamique et la CSN parce qu'Éric Duhaime, c'est le Staline des comparaisons qui ne tiennent pas debout. On vit au-dessus de nos moyens, mais les compressions, l'austérité et tout le tralala sont là pour ramener les wagons de notre train de vie dans la gare de la réalité. Pour l'exemple, prenons une mesure au hasard en tirant un bout de papier dans le grand chapeau de l'austérité. Les compressions dans le budget du lieutenant-gouverneur. Oups, mauvais exemple. Le budget du représentant de la reine au Québec reste intact en 2015-2016. C'est bien, ça fera quelqu'un pour garder Charlotte-Élisabeth Diana quand ses parents vont venir nous visiter. On tire un autre papier. La retraite de misère de Thierry Vandal. Oups, encore un mauvais exemple. Thierry Vandal serait peut-être condamné à devenir un guenillou s'il ne pouvait compter que sur sa retraite de 452 402 $ par année. Mais M. Vandal a aussi droit à une indemnité de départ de 565 503 $. Il a même reçu sa prime le 1er mai, juste à temps pour la fête des travailleurs. C'était dadon. Tirons un autre papier. Les assistés sociaux toxicomanes qui séjournent dans un centre de désintoxication vont voir leurs prestations passer de 747 $ à 200 $ par mois. Ah, voilà un bon exemple. Fini les junkies qui essaient de se tirer du trou sur notre bras. Et ça marche. Avant même que la mesure entre en vigueur vendredi dernier, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance indiquait que 168 personnes ont mis fin à leur thérapie prématurément. 91 autres ont annulé leur entrée en centre et 34 ont tout simplement refusé de se faire évaluer dans le but d'entamer une démarche. On lit ça et on se dit « Wow! » C'était donc là qu'on vivait au-dessus de nos moyens. Avoir su, on aurait coupé avant. C'est quand même fou parce que, à vue de nez, on aurait pu penser qu'on vivait au-dessus de nos moyens à bien d'autres endroits, en donnant nos ressources naturelles pour rien, par exemple. Michel Pepin de Radio-Canada écrivait récemment que, si tout va bien, ce sont 65 millions de dollars que les Québécois recevront en 2014-2015 en redevances minières, en échange de 7 milliards de dollars de ressources, si tout va bien. Ça nous ferait un beau 0,009 $ la tonne. De sa tombe, Duplessis est jaloux. Une scène la tonne? T'étais fou, mon Maurice, et pourquoi pas 100 piastres tant qu'à y être? Mieux parti, avec les crédits d'impôt et les avantages fiscaux, le gouvernement a payé les minières pour sortir les ressources du sol en 2013-2014. On pourrait penser que c'est un peu pas mal ça, vivre au-dessus de ses moyens. Mais non. Tout ce temps-là, ce sont les assistés sociaux toxicomanes désireux de s'en sortir qui plombaient l'économie du Québec. Ben, coudon. Si seulement les pauvres ne nous coûtaient pas si cher, on aurait les moyens de les aider. Malheureusement, en temps de coupure, aider les gens dans le besoin, ça a à peu près autant de valeur qu'une tonne de minerais. Post-scriptum. Grâce au projet de loi 28, adopté sous le baillon et à toute vitesse, les minières ne seront plus forcées de dévoiler certaines données cruciales pour quiconque s'intéresse au développement durable, soit la quantité et la valeur du minerai extrait. Ça, c'est une excellente nouvelle, comme on dit. Ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas mal.
L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas.
Je vais chez mon barbier pour faire teindre mes cheveux, ça coûte de l'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. L'argent fait le bonheur. L'argent.
Vraiment.
Je vais au magasin pour m'acheter des coussins. Encore l'argent. Je veux manger des bananes.
L'argent fait le bonheur par les respectables. Un choix musical de Rémi Hermoso qui profite indûment de ses fonctions pour envoyer un message au service du personnel et discuter des taux de rémunération des employés de Vues et Voix. Mais ceci dit, c'est une appréciation toute personnelle. Ce qui nous amène à parler de croissance. Ça n'a strictement aucun rapport, je le sais, mais croissance, est-ce un mythe?
Alors, écoutez, moi, je vais aller chercher une opinion chez, tenez-vous bien, un ancien conseiller de George Bush. Michael Boskin, alors c'est peut-être pas une référence, mais...
Non, effectivement, je trouve ça plutôt angoissant.
Écoutez, après, avec le temps, les choses mûrissent peut-être un petit peu. C'est une chronique qu'il a fait paraître dans la Tribune. J'ai trouvé assez intéressant. Parce que, compte tenu, enfin c'est son point de vue, des évolutions démographiques, on ne reviendra pas aux années fastes de la croissance d'avant-crise. Bon, très bien, je crois qu'on s'en doutait à peu près. Alors, il complète ce point de vue en disant qu'il faut tout faire pour doper les gains de productivité liés aux avancées technologiques. Ça, c'est un autre débat, probablement une bonne idée, enfin en tout cas, quelque chose, une approche saine, dirons-nous, mais ça se complique peut-être un petit peu quand on va dans le détail. Alors, je vous propose de lire cette chronique qui s'appelle « Nous ne reviendrons pas aux années fastes ». Au cours des 25 années avant la grande récession de 2008-2009, les États-Unis ont connu deux récessions brèves et légères, ainsi que deux expansions fortes et prolongées. Globalement, les revenus ont augmenté rapidement. L'inflation a diminué et les marchés boursiers ont progressé fortement. Bien d'avoir l'honnêteté de le reconnaître. En outre, la reprise suite à la dernière crise majeure dans les années 1980 a provoqué un quart de siècle de performances macroéconomiques d'une solidité et stabilité sans précédent. Cette fois cependant, le retour à la croissance a été beaucoup plus difficile. La reprise de l'Amérique depuis la grande récession a été incohérente. À plusieurs reprises, la croissance ne s'est redressée que pour s'effondrer par la suite. En fait, les États-Unis n'ont pas connu 3 trimestres consécutifs de croissance à 3% en une décennie. Or, vous savez que c'est 3 trimestres consécutifs qui donnent véritablement sa valeur et son poids à un indice. Bien que les prix du pétrole aident les consommateurs, ce gain est en partie compensé par moins d'investissements dans l'énergie et les effets de l'appréciation du dollar seront encore plus grands. Les États-Unis ne sont pas les seuls. Bien que la plupart des économies européennes aient maintenant renoué avec la croissance, aidée par le prix du pétrole plus faible et la dépréciation de leur monnaie, le rythme de l'expansion reste anémique. De même, la reprise au Japon reste fragile malgré les gros efforts déployés par le gouvernement. Même les grandes économies émergentes, qui étaient censées servir de moteur à la croissance mondiale au cours des années à venir, ont du mal. La Chine et l'Inde ont ralenti, tandis que le Brésil et la Russie se contractent. Quand un boom ou une récession dure aussi longtemps, on commence à penser qu'il se poursuivra indéfiniment. 6 ans après la crise, certains éminents économistes se demandent si l'insuffisance des investissements et ou la diminution des gains liés à l'innovation technologique ont poussé l'économie mondiale dans une nouvelle normalité, entre guillemets, de croissance plus faible et de gains de niveau de vie lent, voire inexistant. Certains économistes appellent cette stagnation séculaire une façon élégante de dire que les bons moments s'en sont allés pour de bon. Ont-ils raison ? La croissance économique totale équivaut à peu près à la somme de la croissance des heures de travail, une augmentation du nombre de travailleurs ou du nombre d'heures de travail prestées par ceux-ci, et de la productivité. Productivité, c'est la production par heure de travail. Si la productivité s'améliore d'un point de pourcentage en un an, l'amélioration du niveau de vie au cours de la génération suivante sera augmentée d'un tiers. Au fil du temps, une amélioration de la productivité, même une fraction de point de pourcentage, devient extrêmement conséquente. C'est la première fois que j'entends dire ça de façon à peu près claire, dans un schéma un peu court, à peu près convaincant. La productivité peut être améliorée grâce aux investissements en capital, l'innovation technologique, ainsi que l'amélioration de la connaissance et des compétences de la main-d'œuvre, bien que les économistes soient en désaccord sur ce qui a le plus grand impact. Sur mes recherches avec Larry Lowe, la technologie a joué le plus grand rôle pour stimuler la productivité des économies du G7 depuis la Seconde Guerre mondiale. Compte tenu de cela, la diminution de la croissance de la productivité US, qui n'a été que de 0,7% par an en moyenne depuis 2010, a conduit certains observateurs à expliquer le ralentissement par des avancées technologiques inadéquates. Ces pessimistes, comme l'économiste Robert Gordon, estiment que de nouvelles innovations sont peu susceptibles d'améliorer la productivité aussi fondamentalement que l'électricité, les voitures et les ordinateurs ne l'ont fait au siècle dernier. Les optimistes rétorquent que les téléphones intelligents, Big Data et les progrès attendus en matière de nanotechnologie, de la robotique et des biosciences sont annonciateurs d'une nouvelle ère d'amélioration de la productivité fondée sur la technologie. Il peut être impossible de prédire la prochaine killer app, affirme-t-il. Il n'en reste pas moins que cette dernière sera toujours développée. Je fais une petite aparté pour dire que ça me rappelle exactement l'histoire de l'immobilier. Vous avez 2 points de vue contraires fondés sur des analyses extrêmement développées, des études de chiffres impressionnantes pour arriver à 2 points de vue contraires dont on ne sait absolument plus lequel il faut choisir. Les deux parties citent la loi de Moore. Ah, la loi de Moore. Ah, voilà une grande loi qui nous éclaire depuis des années. Alors, vous vous souvenez que c'est le cofondateur de Intel, Gordon Moore, et il avait remarqué que la densité des transistors sur une puce pouvait être doublée tous les 18 mois. Ah, les transistors, les puces. Et les pessimistes affirment que cela deviendra toujours plus difficile et plus coûteux. Je fais encore une aparté. Vous connaissez le mot de Bernanos sur l'optimisme et le pessimisme ? Qu'est-ce que c'est qu'un optimiste ? C'est un imbécile heureux. Qu'est-ce que c'est qu'un pessimiste ? C'est un imbécile malheureux. C'est vraiment 2 concepts totalement inutiles. Il ne faut pas chercher à être pessimiste ou à être optimiste. Ça ne sert à rien, ça ne veut surtout rien dire. De toute évidence, la trajectoire du progrès technologique est difficile à prédire. En fait, la valeur commerciale principale de la nouvelle technologie n'est pas toujours évidente, même pour l'inventeur lui-même. Lorsque Guglielmo Marconi a réalisé la première transmission transatlantique sans fil il y a un siècle, il cherchait à concurrencer le télégraphe dans la communication de port à port. Il n'a jamais envisagé la radio populaire à diffusion de masse. Thomas Edison a conçu le phonographe pour aider les aveugles. Vous saviez ça ?
Non, hein, non.
Voilà. Et il a intenté un procès pour l'empêcher d'être utilisé pour écouter de la musique. Marrant, hein ? Ça rappelle quel était aussi le grand penseur, ah oui, Louis Lumière, qui disait « Le cinéma est une invention sans avenir ». Bon. Ce qui est sûr, c'est que la croissance axée sur la technologie comporte certains risques. bien que les vieilles craintes que l'automatisation et l'intelligence artificielle causeraient un chômage structurel répandu ne se soient jamais confirmées, la technologie et la mondialisation ont exercé une pression à la baisse sur les salaires de tous les travailleurs des économies avancées, à l'exception des plus qualifiés. La part du capital dans le revenu national a augmenté, tandis que la part du travail a diminué. Cependant, mettre en œuvre des politiques qui restreindraient les technologies pouvant potentiellement améliorer la productivité serait une grave erreur. Bien sûr, personne ne devrait s'attendre à un retour aux années fastes d'avant la crise, étant donné les pressions démographiques auxquelles pratiquement toutes les grandes économies, y compris la Chine, sont confrontées. Néanmoins, ces incitations représentent la meilleure option pour assurer la poursuite du flux de technologies améliorant la productivité, depuis la start-up jusqu'aux divisions de recherche de sociétés établies dans des industries allant de la technologie à l'énergie en passant par les soins de santé. Qu'en conclure ?
Moi, je trouve que c'est un peu illusoire. En fait, augmenter la productivité, oui, mais à l'avantage des travailleurs, vraisemblablement. On consomme déjà une planète et demie à l'humanité sur Terre. Et si on consommait tous comme les Américains, on en consommerait plus de 4, je crois. Alors, est-ce que c'est pas un peu mythique de penser la fuite en avant qui est « je vais produire plus pour faire plus d'argent et éventuellement produire plus de richesses »
Absolument. D'autant plus qu'on voit que toute la démonstration se retourne dans le dernier paragraphe quand on insiste sur le fait que la démographie rattrapera tout ça et au fond risque de le recouvrir comme une marée qui va déferler sur un château de sable construit sur une plage elle-même assez incertaine.
Galen Weston, le sympathique président de Loblaws, celui qu'on voit nous annoncer le choix du président à la télévision assez régulièrement. Donc, Galen Weston nous avertit que le prix du panier d'alimentation va augmenter. Effectivement, la baisse du dollar canadien par rapport au dollar américain va faire en sorte que, oui, vous allez payer vos légumes plus cher, mais également beaucoup de produits transformés qui nous viennent du sud de la frontière.
Alors, un petit mot sur les appareils connectés. Vous savez, toutes ces montres, bracelets qui vous renseignent sur votre poids, le nombre de pas que vous faites par jour, la vitesse de vos battements de cœur, etc. Eh bien, figurez-vous que d'ici 2016, on estime que plus de 30% des foyers américains vont posséder un appareil de santé. Et évidemment, ça va devenir le nouveau truc, non seulement brancher tout ce qu'on veut, etc., mais le nouveau mode de consommation. Alors, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça enfonce encore un clou de cette perspective qui est que on va de plus en plus avoir des données sur nous-mêmes, qu'on va envoyer à un serveur Sony, ce que vous voulez, etc., qui va se débrouiller pour les revendre à un assureur qui lui-même va nous les revendre pour se faire de l'argent. C'est merveilleux, hein, la vie de demain.
Il y a quand même des bonnes nouvelles en technologie santé. Le BTMIA, c'est un organisme que vous connaissez peut-être pas. BTMIA, c'est une organisation de Québec qui fabrique des exosquelettes pour aider les personnes handicapées ou en perte de mobilité à se déplacer. Ça remplace très efficacement le petit chariot à quatre roues qu'on voit souvent sur nos rues. Eh bien, ils ont terminé une ronde de financement qui éventuellement va leur permettre d'attaquer les marchés américains et de faire approuver leurs principaux produits sur ces marchés. On parle quand même de quelque chose qui se vend au-dessus de 20 000 $ mais qui va vous aider à vous déplacer et à avoir une vie presque normale.
Vous avez peut-être suivi la polémique, enfin c'est plus qu'une polémique parce que les images sont quand même saisissantes, mais hier il y a des policiers qui se sont conduits un petit peu brutalement vis-à-vis d'un manifestant. C'est pas la première fois, il y a une série quand même là je dirais récemment dans les divers incidents qui ont eu lieu à Montréal. Eh bien figurez-vous que maintenant il existe une application contre les bavures policières, donc renseignez-vous, c'est intéressant. Elle a été créée à la suite des événements de Baltimore, plus tragiques évidemment que ceux qui sont déroulés à Montréal, elle est gratuite. Elle a été conçue par l'association American Civil Liberties et elle permet d'enregistrer et diffuser instantanément les vidéos qui documentent des incidents. Alors, elle est disponible sur iPhone et sur Android, et elle peut aussi permettre d'envoyer des alertes pour appeler des policiers à se rendre sur un lieu donné ou pour documenter un incident. Comme ça, elle est évidemment blanche de tout soupçon.
Allez, il faut que je vous parle de celle-là parce que ça m'a beaucoup intrigué. Il faut savoir qu'à Québec, la tradition fait en sorte que l'Assemblée nationale consacre 200 heures de travaux parlementaires à étudier les crédits. C'est-à-dire, qu'a-t-on fait avec l'argent? Que va-t-on faire avec l'argent? C'est au cœur de la mission d'une Assemblée parlementaire, de contrôler donc les dépenses du gouvernement. Or, chaque député a le droit de questionner le gouvernement, y compris les députés au pouvoir. Et ça a fait dire à François Bonnardel de la CAQ qu'il s'agissait d'un festival de questions plantées. Il faut savoir que les députés du pouvoir se présentaient au micro quand venait leur tour pour finalement poser des questions dont ils avaient la réponse déjà imprimée à la suite de leurs questions. C'était des questions fournies par le ministre lui-même. C'est facile, ça permet de passer les messages. Et ça nous donne cette incroyable anecdote où, au milieu de son intervention, un député, c'est le député Michel Matte de Portneuf, qui se tourne vers le président de l'Assemblée et qui dit « Combien de temps il me reste? » Là, le président lui dit 5 minutes. « Oh, je vais ralentir alors. » Et ça s'est passé.
On n'a pas parlé d'environnement aujourd'hui et on aurait pu parce que c'est vraiment pas un sujet qui fait défaut. Je voudrais vous citer une étude de l'Université du Connecticut qui est sortie cette semaine et qui fait un comptage des espèces qui pourraient disparaître. Eh bien, figurez-vous que 1 sur 6 pourrait disparaître très, très rapidement si le réchauffement climatique continue avec cette intensité.
J'aurais à cet égard des suggestions à faire. On pourrait commencer par les moustiques, voilà. Vous entendez l'indicatif qui nous signale que cette émission tire déjà à sa fin. On remercie Rémi Hermoso qui a assuré la mise en onde, la direction morale de cette émission et sa direction physique. Voilà. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de Kiosque Magazine, édition économie et emploi. Merci.